la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et salut à tous, bienvenue dans la 58e émission et dernière de l'année 2017 de Par le bout de la lorgnette. Alors si les victuailles sont de Noël sur cette table, nous n'allons parler ni de lutin ni de Mère Noël, mais de science. Pourquoi me diriez-vous ? Eh bien, parce que c'est comme ça. Salut Héloïse.
Salut.
Voilà, tu as décidé qu'on allait parler de science.
Oui, mais parce qu'en fait, figure-toi qu'il y a quand même un lien avec Noël, parce que beaucoup de livres de science et de beaux livres de vulgarisation scientifique ou sur les étoiles, etc., sont vendus pour Noël.
D'accord, tu as compris Valérie ?
Oh, oh, oh oui. Absolument pas. J'ai toujours pas compris même pourquoi ce choix de thème d'aujourd'hui.
Mais c'est très bien.
Mais j'aime l'esprit de Noël.
Voilà.
Donc je suis d'accord.
Parlons de science un peu. Salut Popo.
Salut tout le monde.
Comment ça va Popo ?
Ça va super bien.
Ça va ? Tu as tout ce qu'il te faut ? Un peu de foie gras, un peu de champagne, la vie est belle.
Parfait.
Et des huîtres. Bah écoute, c'est parfait. On salue Nico qui est à côté mais qui doit partir sur Montpellier donc il peut pas participer à cette émission. On va parler de science donc avec pour commencer, Louise, tu veux prendre la parole ?
Ah oui, si tu veux.
Allez, comme ça, nous, on va continuer à manger pendant ce temps.
Alors, je vais vous présenter un premier livre qui s'appelle « Les papilles du chimiste ». L'auteur, c'est Raphaël Aumont. Et c'est aux éditions Dunod, qui sont des éditions scientifiques. À la base, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc, voilà. C'est Eric. Merci Eric qui m'a recommandé ce livre. Il en avait entendu parler sur une radio concurrente de 48FM.
Eric, le sacré Eric.
Le sacré Eric de
lui.
Qui fait Actuel et lui.
Los Actuali.
Los Actuali.
Ça a changé. C'est bien de suivre. Ça a changé depuis 6 mois.
La boulette.
Allez.
Donc voilà, merci Eric parce que j'ai bien aimé ce livre. Donc l'auteur, c'est un jeune chimiste de 34 ans. Il est maître de conférences à l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay. Il travaille au Centre français d'innovation culinaire qu'il a lui-même créé. Donc sous ce nom un peu pompeux, en fait, il s'agit d'une seule pièce au bout d'un des nombreux couloirs de l'Université de chimie d'Orsay, de la ville d'Orsay. Et il y travaille en fait en étroite collaboration avec le célèbre chef cuisinier Thierry Marx, que vous connaissez sans doute.
On voit à la télé.
Qu'on voit à la télé, mais que voilà, qui fait plein de choses aussi bah, pour la cuisine, pour l'insertion des jeunes en cuisine, etc. Mmh. Et qui travaille beaucoup la cuisine moléculaire.
Il y a toujours, ça c'est un problème, c'est toujours des noms pompeux en science. Mmh. Ça peut rebuter, hein. Moi ça m'a rebuté, j'en vais en parler tout à l'heure sur certains livres.
Diante, c'est vrai qu'en français, il n'y a pas de nom pompeux dans la littérature.
Absolument pas.
Donc voilà, le projet de Raphaël Aumont, donc, c'est d'utiliser les propriétés des molécules afin d'améliorer les goûts et les saveurs de nos plats. Donc il va tout d'abord, dans un premier chapitre, nous décrire en fait tous les types de saveurs qui ne se limitent pas, comme on pourrait le penser, à notre schéma classique sucré, salé, acide, amer. Il y a beaucoup plus de saveurs en vérité. Par exemple, au Japon, ils en ont une cinquième qu'ils appellent l'unami. Voilà, donc l'unami, ça fait partie à part entière de leur saveur et c'est en fait un goût de viande, en fait, un goût savoureux de viande, un peu gras. Voilà ce que ça veut dire au Japon.
Du viandox.
Ouais, de la viandasse. Comme on appelle dans le Tarn, la viandasse.
Viandasse.
Après, par exemple, vous avez les saveurs froides et chaudes, les saveurs grasses, les saveurs lactées, l'astringent. Enfin, il y a toute une palette, en fait. Qui est assez immense et qui est passionnante. Par exemple, sur la saveur froide, elle existe vraiment quand on prend un chewing-gum, par exemple. Le chewing-gum ne sort pas du frigo, il n'est pas froid, et pourtant, on sent quelque chose de froid dans la bouche. Voilà. Par exemple, c'est typiquement un exemple de la saveur froide.
Oui, faut pouvoir intervenir, je crois.
Je vois l'image de où tu manges un chewing-gum justement et tu souffles sur quelqu'un en disant tu sens, c'est froid. Ça ne l'est pas du tout, c'est même plutôt répugnant.
C'est une mœurs étrange, Annie Lévilaine.
Ouais. Ça ne marche pas pour tous les goûts, hein, parce que ça marche pour la menthe, par exemple, la menthe forte, mais je pense que si tu prends un chewing-gum à la fraîche, je ne suis pas sûre que tu aies cette sensation de froid.
Non, mais voilà, c'est juste un exemple que je donnais, je ne parle pas de tous les chewing-gums.
Voilà, Ludo. J'aimerais que tu sois précise. Il faut être précis dans cette émission, Héloïse.
Voilà, chewing-gum menthe, pardon.
Merci.
Toutes les menthes, chlorophylle, menthe glaciale
Non,
je
ne
sais pas, je
ne
suis pas une grande
pas.
Consommatrice de chewing-gum, mais
menthe
voilà.
Fraîche, d'où l'appellation.
Ah oui, tu crois que c'est à cause de ça?
Je pense.
Ils en disent quoi dans ton livre, Héloïse?
Alors, il n'y a que 5 lignes dessus, il n'a pas assez développé, effectivement, sur ce point-là, on devrait lui écrire une petite lettre.
C'est vraiment de la vulgarisation, je trouve.
Oui. Mais c'est très bien comme ça.
Donc voilà, donc
c'est plus court.
Dans ce premier chapitre, donc il essaye de décrire toutes ses saveurs et ensuite il s'attache au goût particulièrement, mais à l'odorat et au parfum, le lien entre le monde de la parfumerie et le monde de la cuisine, parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez quand vous êtes enrhumé et que vous mangez, ben vous sentez pas trop le goût de ce que vous mangez et l'odorat est hyper important dans le processus en fait de dégustation. Et donc, on va parler des molécules en fait odorantes, aromatiques et sapides, de leur structure, de leur composition, de leur volatilité. On va essayer de trouver en fait comment les préserver dans l'assiette. Et en fait, il nous explique, par exemple, vous savez, quand on arrive chez soi avec son compagnon à cuisiner ou quand on est invité chez des amis, etc., et qu'il y a une bonne odeur de cuisine, et on se dit ah bah tiens, ça sent bon, on va bien manger, etc. Eh ben non, parce que, enfin, si, on va bien manger peut-être.
Ça dépend chez qui on est invité.
Oui, c'est ça. Ah ben non, parce qu'il ne sait pas cuisiner. Dans tous les cas, c'est pas bon.
Ah, t'as acheté une bougie saveur pot-au-feu.
Non, mais ce qui est, c'est que c'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces saveurs qu'on sent à l'odorat, eh ben, elles vont pas être dans l'assiette, elles vont pas être dans le plat. Elles se sont échappées. Et lui, il va essayer de nous indiquer, en fait, des astuces au quotidien. Comment préserver, en fait, ces molécules qui sont hyper importantes dans la dégustation? Comment les préserver, en fait, dans le plat? Pour les manger, en fait.
Alors c'est l'objet du livre.
Oui.
D'accord.
J'ai une question, Héloïse. Comment préserver ces molécules?
Oui, alors, je vais te dire.
Ah.
C'était mon point suivant.
Tu ne vas pas spoiler le livre, hein, disons.
Non, t'inquiète pas. Je ne vais pas dévoiler la pirouette finale. Donc, en fait, par exemple, pour tout ce qui est herbes aromatiques, donc persil, menthe, basilic, etc., c'est des choses... Enfin, leur structure font qu'au bout d'une très basse température, et ben les molécules s'en vont. Donc du coup, il faut les rajouter en toute fin de cuisson. Il faut même couper le feu et les rajouter après. Et comme ça, on aura toutes leurs propriétés en fait en bouche et en nez. Par exemple, c'est pareil pour le citron, etc. Pour le pot-au-feu, par exemple, il propose aussi de mettre des légumes à la base, mais après aussi d'en rajouter aussi petit à petit pour que toutes les propriétés soient exploitées en fait. Au niveau du plat. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant. Au niveau du quotidien, on peut s'en servir, on peut servir de ces petites astuces sans souci. Et par le biais de la science, améliorer un peu notre cuisine. Donc voilà, le livre est vraiment passionnant. C'est vrai qu'il y a des termes assez techniques. Donc j'ai dû revenir plusieurs fois dessus. Après, si ça n'avait pas été sur le sujet de la cuisine, ça m'aurait un peu saoulée. J'aurais pas cherché, mais là, c'était vraiment quelque chose que je voyais d'utile, de pratique, en fait, pour mon quotidien. Donc, j'ai réussi à passer à travers tout ce lexique, en fait, assez complexe. Donc, il a bien réussi, quand même, sa vulgarisation. Il y a quelques petits dessins, il y a des recettes, des petites anecdotes qui sont chouettes, qui parcourent le livre. Donc, ça fait aussi des respirations, en fait, dans le côté très technique du livre. Et donc, voilà, c'est un livre que je conseille à toute personne, en fait, qui aime cuisiner, parce que ça va lui donner plein d'astuces.
Voilà, c'est plutôt pour les cuisiniers que...
Tout à fait, oui, pour les cuisiniers,
Okay. Il a fait une version pour enfants aussi, avec...
Ah oui, alors ça, j'avais pas vu.
C'est celui qui avait fait en sorte qu'Eric, après, veuille le version pour adultes, où il t'apprenne, il donne plein d'astuces pour cuisiner avec les enfants par rapport à cette chimie, par exemple, la cuisson du poisson dans la vaisselle. Qui est une cuisson idéale pour le poisson, parce qu'on en avait parlé, parce que ça cuit...
Arrête le champagne de suite,
non,
Valérie.
Mais c'est vrai.
Non, c'est vrai.
Tu mets ton poisson bien emballé, bien sûr, dans la vaisselle, et ça le cuit, une cuisson vapeur très douce, très lente.
Pourquoi on a inventé le four? Valérie, c'est... Ben... si c'est pour faire cuire le poisson dans un lave-vaisselle, dis-moi.
Parce qu'il y a certaines cuissons qui peuvent pas aller, tu vois. Par exemple, ton gratin dauphinois dans le lave-vaisselle, ça marche pas.
Ça marche pas, non.
Non, voilà.
Non,
non mais contre, c'est vrai que le poisson dans une poche plastique dans le lave-vaisselle, c'est oui, c'est reconnu, oui, effectivement.
N'importe quoi. Merci, Héloïse. Non, voilà. La dernière fois que je suis venue manger, j'ai eu une pizza au chou-fleur. Alors,
et alors bon. C'est très bien.
C'était très bien. Rappelle-nous l'auteur de la maison d'édition.
Raphaël Aumont. Ça s'appelle Les papilles du chimiste, saveurs et parfums en cuisine. Et c'est édition Duno.
Les papilles du chimiste.
Allez. Avec le champagne aussi, tout de suite.
Valérie, tu as combien de livres un seul
Non, j'en ai deux.
Oh, c'est bien, on a
c'est
tous deux livres.
J'en ai qu'un dans ma main que j'en ai
d'accord,
pas deux.
D'accord, mais j'ai envie de donner la parole à Popo.
Je m'en doutais.
Eh ouais, c'est comme ça.
Eh bah go.
Tu es allez. Tellement prévisible, Ludovic.
Oui, je sais.
Alors moi, pour commencer sur mes deux livres, je vais vous parler d'abord de Georges et les trésors du cosmos. Alors les auteurs, vous êtes prêts, ça va envoyer, c'est Stephen Hawking. Ouais.
Wow.
La classe.
Et sa fille Lucie, qui lui est physicien, pour ceux qui connaissent pas un grand physicien, un des grands esprits scientifiques du moment. Et donc sa fille, elle est journaliste et romancière, et en fait depuis 2007, ils écrivent ensemble. Alors je sais pas à quel point ensemble, hein, mais ils écrivent ensemble une série de romans pour enfants, dont l'objectif est de découvrir la science. Et donc c'est Georges et donc dans mon cas, et les trésors du cosmos. Donc on découvre la physique, on découvre les grands secrets de l'univers, les grandes théories. Donc l'histoire globalement de toute la série, c'est donc ce petit George Grinby. Il a, je pense, une dizaine d'années. Et il fait connaissance avec ses voisins, Eric, sa petite fille Annie, qui a à peu près son âge. Et ce père et cette fille là ont un ordinateur fabuleux qui s'appelle Cosmos et qui ouvre des portes pour voyager dans l'espace. Et...
C'est Jumanji ?
Ah, c'est Jumanji 21e. Ouais. Voilà. donc voilà, ils vivent à chaque fois une aventure liée à la porte ouverte par Cosmos. Donc dans mon livre, Annie est partie. Annie et son père sont partis vivre aux États-Unis puisque Georges est anglais. Et oui, parce que donc Eric, le père d'Annie, a un projet d'envoi d'un robot sur Mars.
Eric, le sacré Eric.
Celui
qui a commandé le livre de cuisine et les papilles.
Celui de Los Actuali.
Peut-être bien.
Hein, je sais pas.
Avec ses secrets, ses robots secrets. Et donc, pendant son séjour aux États-Unis, Annie va recevoir un message sur son ordinateur Cosmos venant de l'espace. Voilà, un message extraterrestre.
Trop bien.
Donc, elle appelle son copain Georges. Et elle lui dit, il faut que tu viennes tout de suite aux États-Unis me rejoindre. Il faut qu'on décrypte ce message et qu'on comprenne ce que Cosmos veut nous dire. Et alors là, évidemment, c'est le début d'une grande aventure que vont vivre Georges et Annie. Voilà, en lien avec le robot envoyé par le papa d'Annie sur Mars. Donc, au-delà de l'aventure qui est déjà sympathique, que tous les jeunes vont aimer, l'intérêt de ces bouquins, c'est que il y a des petits extraits alors comment ça s'appelle, le petit guide de l'univers, je crois. Voilà, le petit guide de l'univers qui est un livre de chevet de Georges, de notre héros, qui parle de tous les grands secrets de l'univers et qui les explique aux enfants. Mais alors vraiment. Quand je dis...
Genre les secrets, le Big Bang
Oui, par exemple. Bon, là, dans mon livre, il n'y a pas le Big Bang, mais par exemple, comment la lumière voyage-t-elle dans l'espace ? Donc, c'est quand même pas... c'est pas quelque chose de simple, c'est pas... Et donc, voilà, ça explique plein d'aspects de la physique, des grandes théories.
Il arrive bien à vulgariser pour les enfants,
alors,
justement ?
C'est quelque chose, justement, que je me suis demandé, parce qu'en lisant le bouquin, l'histoire s'adresse quand même à des jeunes, moi, je dirais, des CM2, 6e, voilà,
ah oui,
c'est
quand même.
Une tranche d'âge pas trop grand, parce que les ados, je pense qu'ils vont trouver ça un peu trop enfantin, et les plus petits vont être perdus. Et du coup, moi, j'ai fait lire à certains de mes élèves, parce qu'en me disant ces passages physiques, est-ce qu'ils vont vraiment comprendre, parce que ça va loin. Et alors, effectivement, ils ne comprennent pas tout, mais ils comprennent une partie, et par contre, ils ont tous trouvé ça génial, et ça a vachement éveillé leur curiosité. Bon, ensuite, ils m'ont demandé des livres sur l'astronomie, sur la physique. Donc,
même s'il pige pas tout, en fait, l'intérêt, je pense, c'est surtout de d'éveiller la curiosité face aux sciences. Et pour le coup, ça marche vachement. Même en lisant que des extraits, je leur ai ouvert le livre à une page, je leur ai dit, tiens, tu peux lire ça. Et me dire ce que tu comprends, ce que tu comprends pas. Et ils ont lu, ils m'ont dit, ah, c'était super. Je lui ai dit, mais t'as compris, t'as bien tout compris. Bah non, mais...
Mais c'était super quand même.
Mais c'était génial. Oui, voilà, bah, ils sont comme ça. Ils sont... Donc finalement, ça marche plutôt bien, je pense. Pour l'histoire, je vous dis, c'est, je pense, des CM2, 6e. C'est assez restreint comme tranche d'âge, parce que je vous dis, je pense que les plus petits risquent d'être un peu perdus. Et puis alors, si en plus on a un gamin qui aime les sciences, alors là, il va s'éclater. Je pense que ça va être génial. Et c'est une série, donc il y en a, je crois, il doit y en avoir 6 ou 7 pour le moment. Donc voilà, si ça plaît, ça permet de découvrir plein d'aspects de la physique. Le premier, il traite du Big Bang, je crois. Donc voilà pourquoi je te disais oui tout à l'heure. Voilà, il y a plein de thématiques physiques. Et je trouve que c'est original comme idée parce que c'est quelque chose qu'on... Je sais pas ce que de t'en penses, Louise, mais en littérature jeunesse, on ne voit pas passer énormément des livres, des romans qui parlent de science. Ça me semble un peu...
Oui, non, il n'y en a pas beaucoup. Effectivement, il y a une série aussi qui s'appelle Le Prince des Nuages, qui est pas mal aussi, mais qui parle plus en fait, des phénomènes météorologiques. Et donc là, voilà, de la physique avec Stephen Hawking. Et, ouais, non, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément des romans.
Du coup, c'est sympa, c'est original.
Et c'est quoi le thème des autres, Georges et...
Et alors, bah, le premier, ouais, Georges et le Big Bang, quelque chose comme ça.
Ah, pardon, excuse-moi, c'est pas un piège que je voulais faire.
Est-ce qu'il y a la liste? Je sais pas, parce non, que ça, c'est le tome. Moi, j'ai le tome 2. Et donc, ouais, là, j'ai juste avant Georges et les secrets de l'univers. Et je sais qu'il y en a un qui s'appelle Georges et le secret du Big Bang. Ouais.
Mais c'est toujours
Georges et la lune bleue.
Dans l'espace,
ouais,
quoi.
C'est toujours spatial.
Bah après, Stephen Hawking, il est spécialisé en physique quantique, non?
Ouais, physique quantique, astrophysique, ouais. Tout ça. Donc, ouais, après, qu'est-ce que ça veut dire? On va pas se lancer. Hein.
Du coup, c'est un roman. Il y a une histoire du début à la fin, oui. J'imagine, parce qu'ils reçoivent un message. Alors, il y a une finalité au livre, quand même.
Oui, il y a une aventure et on cherche à savoir la fin. Et c'est là tout le côté sympa du livre. C'est qu'il y a cette histoire qui tient en haleine, entre guillemets, un peu.
Et ça marche, il a bien écrit cette histoire.
Oui, c'est... Alors ouais, moi c'est pour ça que je donne un âge vraiment des pas trop grands parce que c'est une petite histoire un peu gentil, mais c'est une aventure et il y a un peu de suspense, on a envie de savoir ce qui se passe, donc ça fonctionne, je pense.
Et t'as appris des choses toi
en tant
qu'adulte?
Ouais, vachement. Ouais, vachement de choses. Donc pareil, réussi.
Et on vous conseille Georges et les Claudettes, c'est le livre d'après. quelle maison d'édition, Georges?
Je sais pas.
C'est Pocket, non? Pocket Jeunesse.
Ouais, Pocket Jeunesse.
En tout cas, c'est un bel ouvrage. Ouais.
Oui, en plus, il est joli comme bouquin. Très sympa.
Voilà.
Super.
Et concernant les jeunes qui aiment la bibliothèque, il faut faire attention pendant ces périodes de froid. Des jeunes qui préfèrent rester à la bibliothèque, quitte à dire qu'ils aiment un livre, plutôt que d'aller se cahier dans les cours d'école.
Je ne peux pas y croire.
Voilà, absolument pas. Valérie Trémolière, qu'est-ce qu'elle nous présente?
Eh bien, je vais vous parler d'un livre dont la couverture est magnifique.
Ah oui,
tu n'aimes pas?
Si, je plaisante, mais je suis tellement... mon cerveau est tellement contrarié avec les sciences que j'ai dû me faire violence pour cette émission. Donc ça va que j'ai eu 2 livres à lire tout à fait simples. Et celui-ci s'appelle donc « Le 30 février et autres curiosités de la mesure du temps ». Alors il a fait un titre un peu attrayant pour être sûr qu'on puisse le lire. Et il a eu raison. Me voilà réconciliée après tant d'années à détester ça avec les sciences. Ce livre, en fait, c'est Olivier Marchand qui l'a écrit. C'est un petit réalisateur indépendant qui a écrit pas mal de livres toujours sur ce thème-là, comme Le Mont Blanc n'est pas en France et autres bizarreries géographiques, l'Atlas de la France incroyable, où c'est qu'il va faire un atlas, mais non pas pour savoir où il y a la plus forte densité agricole ou là où on pêche le plus. Non, c'est là où on va prendre le plus de Viagra en France. Enfin, des petites bizarreries un peu rigolotes. Ouais, voilà.
Parce que le Mont Blanc est en France, hein, Valérie.
Eh bien non, tu liras le livre qu'il a sorti en 2013. Le Mont Blanc n'est pas en France.
Je ne suis pas d'accord.
Ouais, tu liras le livre. Va voir à la lorgnette, je suis sûre qu'elle peut l'avoir.
Oui.
Voilà. Donc là, dans ce livre, en fait, c'est des petits chapitres assez courts, mais bizarrement très, 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 très instructifs. Sur plein de sujets. Par exemple, on apprend que William Shakespeare et Cervantes sont morts à la même date, mais pas le même jour. Alors forcément, le titre est à guicheur, et quand on voit un titre mort à la même date, mais pas le même jour, on n'a qu'une envie, c'est de savoir pourquoi.
Et tu peux nous expliquer.
Ouais, je vais l'expliquer de façon très rapide. C'est juste qu'en fait, il y avait deux calendriers qui étaient en vigueur à cette période-là. En fait, on avait le calendrier qui était initié par le calendrier chrétien, mmh. et il y avait le calendrier grégorien. Ça, c'est l'effet champagne. Et le calendrier grégorien. Et du coup, en fait, ils étaient ces deux calendriers différents de 10 jours.
D'accord.
Donc forcément, ils sont tous les deux morts le 23 avril 1616. Mais en fait, il y en a un des deux qui est mort 10 jours plus tôt, parce qu'il y a toujours eu 10 jours d'écart. Et en fait, ça a créé beaucoup de soucis, finalement, qu'il y ait ces deux calendriers qui soient,
Décalés, oui.
Décalés, oui, mais pourtant utilisés par les gens en même temps. Et par exemple, le roi William II, il faut savoir qu'il est parti des Pays-Bas pour aller en Angleterre. Il est parti le 11 novembre 1688 des Pays-Bas, mais il est arrivé le 5 novembre en Angleterre. Voilà, donc c'est assez...
C'est cocasse, ouais.
C'est assez fabuleux. Et en fait, oui, Ludovic.
Non, pas du tout.
Intervention.
Non, absolument pas.
Voilà. Et en fait, c'est plein de petits chapitres comme ça. Après, on a pourquoi est-ce que le 18 novembre 1883 aux États-Unis est connu sous le nom des dimanches au deux midi.
Pourquoi ?
Vous avez une idée ?
Ah non.
Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, il y a eu un dimanche où il y a eu deux midi en 1883
Parce qu'il y a eu une éclipse entre-temps et...
Non, parce qu'ils ont décidé un changement d'heure d'été et d'hiver.
Ben en fait, ils ont mis en place les fuseaux horaires. Il n'y avait pas, aux États-Unis, il n'y avait pas de fuseaux horaires. Donc forcément, tu allais de l'est à l'ouest, tu étais sur le même fuseau horaire. Mais ce qui était totalement impossible, vu les distances. Donc en fait, ce jour-là, ils ont décidé des fuseaux horaires. Et donc, il y a des personnes qui ont eu droit à avoir deux doubles rations de gigots flageolés, plat emblématique du dimanche aux États-Unis.
Oh, chez moi aussi.
Chez toi aussi. Et en Ille-et-Vilaine. Et Amande, maintenant.
En Côte d'Armor.
Côte d'Armor. Pardon, chaque fois, je te Ille-et-Vilainise.
Ouais, c'est pas beau ce que
c'est
tu
moche.
Fais.
Non, c'est moche. Ça va, je la mets pas nantoise. Faut pas non
c'est
plus
vrai.
Exagérer.
Non.
Voilà.
On rappelle Nantes qui n'est pas en Bretagne.
N'est-ce pas?
Non.
Donc voilà, et c'est plein de petits chapitres comme ça qui paraissent. Enfin, c'est des histoires à chaque fois. C'est court, mais c'est bien documenté. Et voilà, et ça éveille à la curiosité. Et là, en fait, c'est toutes les mesures du temps. Après, on découvre aussi que, Ludovic, par exemple, tu es né quel mois?
Septembre.
Tu es né en septembre, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu es né le mois de la justice.
Absolument, c'est tout à fait moi.
Tu es né en
juin.
En juin, donc tu es né dans le mois l'unité. Et toi, Héloïse ?
Avril.
Avril, tu es né en montagne. Moi, de la montagne.
Pourquoi la montagne ?
Ah, écoute, j'en sais rien. Il y avait régénération, réunion, jeu de pommes, Bastille, peuple, montagne. Moi, je suis né en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en République. Voilà, c'est ça.
Non, mais c'est sympa parce que c'est à la fois scientifique, à la fois historique aussi. C'est des petites anecdotes vraiment chouettes, je trouve.
Et je voulais vous inviter, tous les auditeurs de 48 FM, à venir boire un verre le premier jour de charrue prochain. Voilà, donc si vous voulez savoir quand est-ce que vous êtes invité à venir boire un verre, il faut venir à la lorgnette acheter le livre Le 30 février et autres curiosités de la mesure du temps aux éditions Seuil par Olivier Marchand, disponible à la lorgnette.
Merci
Valérie, très intéressant ce livre. On va faire une. Je reviendrai après la coupure musicale parce qu'il faut qu'on ouvre une bouteille de champagne, donc on va pas la faire péter à l'antenne. Hein, on n'est pas comme ça, nous, on n'en parle pas, on parle pas d'alcool.
Il
ne faut pas. Allez, George Harrison, on revient de suite après. Allez, 1h02, vous êtes bien à l'écoute de 48 FM. On poursuit dans Par le bout de la lorgnette spéciale science. Alors moi, merci à Louise, hein, je tiens à vous dire que je suis pas du tout scientifique et cela s'est un peu vérifié à la lecture des livres qui m'ont été proposés. Et comme elle m'aime bien, Héloïse, elle m'a donné en plus un Goncourt à lire. Alors pas ce livre, mais un auteur Goncourt, Jérôme Ferrari, qui a glané Sermon sur la chute de Rome, qui a glané un Goncourt pour ce livre-là et qui a décidé 2 ans après d'écrire sur le scientifique allemand Werner Heisenberg, prix Nobel de physique de 1932, fondateur de la mécanique quantique qui inventa le principe, Popo, le principe d'incertitude. C'est cela, Popo, exactement. Alors, il nous explique l'incapacité des êtres à tout comprendre du monde, si j'ai bien compris son propos, car les phrases de Jérôme Ferrari peuvent être aussi belles qu'indigestes. Ce principe d'incertitude selon lequel on ne peut pas connaître en même temps la vitesse et la position d'une particule qui est présentée à grands coups de métaphores, très belle mais pas toujours compréhensible. Alors il nous présente cette théorie par le biais d'un jeune étudiant en philosophie qui sèche lamentablement ses cours alors qu'il est interrogé justement sur un texte d'Heisenberg. Alors je comprends pourquoi il a séché les cours. Le sujet reste scientifiquement très intéressant et le mieux c'est le personnage trouble d'Heisenberg aussi. C'est un scientifique finalement qui a décidé de rester en Allemagne pendant la période nazie et qui a d'ailleurs dirigé le programme d'armement nucléaire. Alors après, on ne sait pas trop l'histoire, il y a quelques incertitudes. On ne sait pas s'il est resté pour ralentir le programme afin que les nazis ne se dotent pas de l'arme nucléaire. Il y a des controverses sur ce personnage qui sont d'ailleurs bien évoqués par Jérôme Ferrari dans ce livre. C'est un sujet qui est donc intéressant, mais c'est, j'ai trouvé assez confus. Des personnages, des situations qui s'entremêlent, on change de narrateur. Alors là, on se rend compte plusieurs pages après que c'est plus le même narrateur. Donc il faut reprendre 20 pages avant pour se dire, mince, on en était où ? C'était qui parlait ?
Mais c'est le principe même de l'incertitude. Il est à fond dans son personnage.
C'est ça.
Il fait de la physique quantique en littérature, c'est fabuleux.
Oui, c'est ça. Et donc, je suis allé voir les gens un peu ce qu'ils pensaient de ce livre, et c'est tout ou rien. Alors, il y a des gens qui ont adoré, c'est un véritable chef-d'œuvre. Il y a une grande partie de gens qui, comme moi, ont expliqué. J'ai pas compris, j'ai donc relu les 50 premières pages une seconde fois pour essayer de comprendre, parce que quand même ça m'intéresse, mais finalement, j'ai toujours rien compris. La dernière partie, c'est un huis clos dans les scientifiques d'Heisenberg entre eux. Pendant la guerre, et c'est un peu plus intéressant, c'est des phrases un peu plus courtes, on rentre un peu dans l'histoire. Au début, c'est vraiment beaucoup de métaphores, des phrases à la Proust, longues, qui n'en finissent jamais, très jolies. Alors, je vais vous lire une de ces belles phrases. Vous êtes prêts ? Vous
allongez-vous, tendez vos pieds.
C'est parti. Il suffisait de renoncer aux questions, celles qui portaient sur une réalité physique que personne ne pouvait observer ni concevoir. Il fallait oublier toutes ces histoires d'ondes, de corpuscules, d'orbites et de trajectoires, se libérer douloureusement de la nostalgie des images pour bondir d'un seul coup par-dessus l'abîme dans le refuge des formes mathématiques, car c'est là que depuis toujours la raison a sa demeure et c'est à nouveau la nuit d'été dans la cour du château de Prune quand s'élevaient d'un violon solitaire les notes de la chaconne qui vous arrachait à votre douleur en révélant que le monde n'était pas seulement le chaos qu'il semblait être. Ce grand corps disloqué avec ses morts inutiles, ses âmes désorientées, ses vains espoirs, ses ruines, la rancœur et la colère inextinguibles, l'humiliation des diktats et qu'il était encore possible d'avoir foi en ce que vous n'appeliez pas Dieu, mais un ordre central au sein duquel toute chose prenait sa place. Voilà, fin de la phrase.
Il n'y a pas de point.
Oui, mais c'est beau.
Voilà, là, je viens de finir la phrase.
Ouais, c'est quand même un peu trop. Pour moi aussi, c'est un peu trop le début. Je trouve ça très poétique. C'est très beau, mais après, c'est vrai qu'il aurait pu mettre des points. Je sais pas.
Voilà, donc c'est très, très beau tout le long. C'est super poétique, mais... C'est peut-être que j'ai pas le niveau pour lire un livre comme ça, ce qui est possible, hein. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que par-dessus ces belles phrases, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, je vais le lire à la prochaine phrase, il va expliquer. Et non, on revient sur de nouvelles métaphores, et on finit le chapitre, on se dit, ouf, je vais relire pour essayer de. En plus, ouais. Il parle de physique quantique, de molécules, par des métaphores. Donc, c'est super compliqué, mais je comprends cet auteur qui donc a eu le prix Goncourt, qui a mis 2 ans avant d'écrire un autre livre et qui s'est posé la question, mais comment je peux repartir après un Goncourt? C'est super compliqué. Donc, il a choisi un personnage historique controversé qui est super intéressant. Mmh. Une thèse de l'incertitude qui est super intéressante, mais du coup c'est vraiment vraiment compliqué. Mais pour les amateurs de grandes lectures entre guillemets, je leur conseille ce livre parce que c'est super beau, c'est super intéressant. Mais moi j'ai eu un peu de mal.
Oui, après, c'est, je comprends ce que tu veux dire, mais du coup, c'est vrai que il y a beaucoup de romanciers en ce moment qui s'emparent en fait de la vie de scientifiques, et on voit aussi ça dans des films en ce moment.
Le concours de cette année, d'ailleurs.
Oui.
Qui parle de.
C'est l'ordre du jour.
Je ne sais plus.
Oui, c'est ça.
Valérie sait, je crois.
Mais je suis d'accord.
Oui. Non, mais voilà, il y a eu en cherchant Majorana, il y a plein de livres en fait de romans qui parlent de scientifiques, et c'est vrai que c'est souvent des gens qui ont travaillé un peu dans l'ombre, on ne connaît pas trop leur vie personnelle, et on s'attache aussi un peu à... Alors là, ça n'a pas l'air d'être vraiment la vie personnelle d'Heisenberg, mais souvent, en fait, on s'attache effectivement au côté un peu plus sombre, un peu plus personnel, intime des grands chercheurs.
Exactement. Merci, c'est chez Babel, le principe Jérôme Ferrari. Allez, Louise, on te laisse poursuivre. Oui.
Alors... Moi, je vais poursuivre avec un livre qui s'appelle « Une nuit » de Trinh Xuan Tuan aux éditions de l'Iconoclaste. Voilà. Donc, l'auteur est un astrophysicien de renom, d'origine américano-vietnamienne, et il s'exprime essentiellement en français. Donc, autant vous dire que c'est une grosse tête déjà, le type. Voilà. Donc, je vais vous citer juste une petite phrase, une citation de ce monsieur que j'ai trouvé assez jolie. La nature n'est pas muette, tel un orchestre lointain, elle nous fait constamment parvenir des fragments de musique et, et de notes éparses. Voilà, donc lui, en fait, il s'attache en amoureux inconditionnel de la nature, des étoiles, du cosmos, de la nuit. Il s'attache, en fait, à décrypter cette musique, en fait, que nous, on ne comprend pas forcément et que nous envoie la nature et l'espace. Et donc, il observe, sans relâche, et il essaye de découvrir, en fait, les secrets, l'histoire de l'univers. Pour ceci, il utilise les plus grands télescopes construits au monde. Il analyse les résultats dans son université. Alors, son étude s'attache à l'observation des toutes petites galaxies. Enfin, petites, tout est relatif, mais des plus petites galaxies, en fait, parce qu'il est persuadé qu'on va trouver dans ces galaxies des réponses à la création de l'univers, à la création des grandes galaxies. Il pense qu'en fait, que les petites galaxies forment ensuite, au bout de milliards d'années, les grandes galaxies qu'on connaît aussi. Donc lui, en fait, il s'attache à l'observation de ces toutes petites galaxies. Donc là, le document commence à Hawaï. Il est donc au sommet du volcan, le Mauna Kea. Et c'est là où sont installés en fait, les plus performants et les plus gros télescopes du monde. Ils sont gérés par la NASA. C'est un endroit où il est très difficile d'y aller évidemment, même quand on est scientifique, il y a une énorme liste d'attente, on y va sur dossier, on a le droit d'y rester que 3 jours, si le scientifique est là pendant 3 jours et que le ciel n'est pas dégagé, c'est foutu pour une année jusqu'à ce qu'il repostule et il n'est pas sûr d'y retourner dans sa vie. Donc,
La galère.
Oui. C'est une grosse galère et une bonne frustration, je pense.
C'est un peu comme les athlètes olympiques qui s'entraînent pendant 4 ans et qui se blessent 2 jours avant.
Tout à fait, ouais. C'est exactement ça. Et du coup, donc, on retrouve notre scientifique qui a de la chance puisqu'il est au sommet donc, du volcan. Les conditions sont idéales.
Et là, il tombe. Il glisse. Ah, chef, j'ai glissé.
Non. Il va nous raconter en fait, ces 3 jours et ces 3 nuits qu'il va passer dans cet endroit absolument exceptionnel. Il va nous expliquer ses recherches. Il va nous expliquer aussi le fonctionnement d'un télescope. Alors moi, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Donc un télescope, en fait, est composé d'un miroir, d'un grand miroir. Et donc, en fait, ce miroir capte la lumière émise par les étoiles. Il y a différents types de lumière. Là, il y a la lumière qu'on voit là, effectivement, mais il y a l'ultraviolet, il y a des lumières invisibles aussi. Et il capte, en fait, le télescope, les lumières invisibles qu'émettent les étoiles, les galaxies, etc. Et donc, cette lumière, on peut la décomposer comme un espèce de spectre, en fait. On peut l'analyser, la décomposer. Ce serait comme un espèce de graphique avec des soubresauts, en fait, qui montent, qui descendent, etc. Et donc, à partir de ce spectre de la lumière décomposée, on peut voir, en fait, ce qui s'est passé dans le passé de cette étoile. C'est-à-dire qu'à partir de la lumière qu'elle émet, on peut savoir ce qui s'est passé des milliards d'années avant pour cette même étoile. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ce que j'ai...
Depuis quand elle existe, ce qu'elle a fait, voilà, est-ce qu'elle a exactement. Roulé sa bosse.
Exactement, juste à partir de lumière. Enfin, je trouve ça incroyable.
Oui.
Je m'en doutais pas du tout. Et donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, voilà, il nous raconte tout ça. C'est assez précieux, en fait, ce qu'il nous raconte. Il le raconte, en plus, avec beaucoup de passion, de patience aussi. Parce que bon, c'est quand même un grand scientifique et là, c'est basique ce qu'il nous explique pour lui, mais c'est, il arrive bien à le transmettre pour le coup. Après, il y a beaucoup de photos aussi qu'il a pris lui-même sur place et des citations aussi de grands auteurs, Balzac, etc., sur la nuit, sur les étoiles. Donc, c'est un ouvrage à la fois très scientifique, mais aussi très, très littéraire, en fait. Et donc, ça fait relativiser aussi, ça fait réfléchir et ça fait voyager. C'est plutôt, plutôt chouette. Voilà.
Il paraît qu'il y a une citation de Jérôme Ferrari qui fait 8 pages dans ce livre. Non, c'est intéressant, oui. C'est une belle
c'est
démarche.
C'est super intéressant. Oui.
Et donc, c'est pas romancé, hein, c'est vraiment un
document.
Non,
c'est un peu comme un carnet de bord. Mais après, bon, c'est pas romancé, mais il faut, le type, en plus d'être un grand scientifique et de parler 10 langues, il écrit très bien, quoi. Voilà, donc, voilà, donc ça se lit vraiment comme un roman.
Mais ça a l'air tout joli à l'intérieur.
Ouais, c'est très beau, effectivement.
Merci, Héloïse. Popo.
On y va.
Allez.
Eh ben, moi, je vais vous parler de « Cher professeur Einstein ». Quand les enfants écrivaient à Albert Einstein et qu'il leur répondait. Alors, je vais tout de suite casser un peu le titre.
C'est-à-dire que. Il ne répondait pas?
Dans le choix de lettres que l'auteur a fait, il y en a les 4-5 pour lesquelles il y a des réponses. Donc, effectivement, il leur répondait, mais elle n'a pas choisi forcément les lettres auxquelles il répondait. Donc, voilà. Je vais commencer direct. Je vais vous dire ce qui m'a déçu.
C'est bizarre. Pourquoi, du coup? Parce que dans le titre, quand même.
Eh ben, parce qu'il y en a quelques-unes où, effectivement, il en répond. Et il le fait avec humour. Il a une certaine finesse. Il est même des fois un peu rentre-dedans. C'est assez rigolo. Et notamment dans une lettre où il y a un petit qui est un peu pompeux, qui se voit comme un esprit scientifique du futur. Et alors, Einstein le casse tout de suite en lui disant, bon, faut un peu avoir les pieds sur terre.
C'était le petit Ferrari.
Oui.
Et le titre, c'est « Cher professeur Einstein », c'est pas « Chers enfants », hein, Héloïse.
Mais voilà, donc bon, c'est effectivement des lettres d'enfants, mais on n'a pas toujours les réponses. Et s'il y avait autre chose, voilà, dans la soixantaine de lettres qu'on a, je pense qu'elle en a choisi trop qui portaient autour du même thème. Voilà, elle a mis plusieurs lettres d'enfants qui demandent un autographe à Einstein. Elle a mis plusieurs lettres d'enfants de clubs de sciences qui demandent à Einstein d'être leur un membre d'honneur. Bon, c'est sûr qu'il fallait en mettre des exemples, mais peut-être pas 3-4 de chaque, voire 4-5. Donc voilà pour
le. Avancer le
schmilblick. Voilà pour le côté dommage. Et pour le regret que j'ai, mais qui est pas absolument pas dû ni à l'auteur ni à qui que ce soit, c'est que nous on est français, donc on a accès à l'édition française. Et en fait, c'est des lettres du monde entier qui ont été écrites principalement en anglais, parfois en allemand. Et je pense que la traductrice a essayé de faire l'effort de redonner les fautes, les maladresses d'expression, la petite touche enfantine à ces lettres, mais c'est très dur, je pense, de traduire quelque chose comme ça. C'est tout l'art d'être un traducteur, et je pense qu'elle gagne. Ça gagnerait à être lu en version originale, je pense. Mais bon, ça on peut rien y faire. Hein. Si on lit pas l'allemand, on lit pas l'allemand. Voilà. Par contre, ça reste quand même un livre très mignon. Très très sympa, parce que déjà les enfants ils sont ce côté innocent, ils écrivent quand même à Albert Einstein qui déjà à cette époque-là est un esprit scientifique, il a pas été reconnu après sa mort, de son vivant déjà c'était quelqu'un. Alors les gamins ils lui demandent est-ce que t'existes vraiment ou est-ce que t'es un personnage de BD par exemple parce que je suis pas très très sûre. Un garçon adorable qui lui explique qu'il est en train de construire une fusée fabuleuse pour aller sur Mars avec son papa. Et donc, il invite Einstein à venir dans la fusée pour aller sur Mars avec lui. Ou une petite fille qui lui écrit donc pour lui parler d'elle. Alors, elle lui raconte toute sa vie. Bon, il n'y a rien de neuf à l'école, mais on a quand même gagné au hockey. Enfin bon, qui lui raconte c'est vraiment sa vie tous les jours. C'est mignon comme tout. Et qui finit par lui dire, je vous aurais écrit plus tôt si j'avais su que vous étiez vivant. Moi, j'ai toujours cru que vous étiez un scientifique du 18e siècle, donc que vous étiez mort. Et je viens d'apprendre que vous étiez vivant. Donc, je vous écris. Tu vois, voilà, ces petits côtés adorables qu'ont les enfants là pour ce choix-là, c'est vraiment super parce que tu lis des trucs super drôles, quoi, super vraiment mignons. Donc
Et comment elle a réussi à avoir, enfin l'auteur, accès à toute cette correspondance?
Alors c'est une spécialiste de des archives Einstein qui sont conservées à Princeton.
Non, il y a toutes, voilà, tous les écrits, tout, en fait, les lettres qu'écrivait Einstein et les lettres que les enfants lui écrivaient ont été reproduites par sa secrétaire pendant des années. Alors, il y en a quelques-unes qui n'ont pas été reproduites avant l'arrivée de sa secrétaire, mais en plus, certaines ont été, voilà, et archivées. Donc, il y a une quantité d'archives incroyables qui sont conservées à Princeton. Et donc, l'auteur, Alice Calapris, est spécialiste de ces archives, a déjà publié des livres de citations d'Einstein, voilà, qu'est construit grâce à ses recherches dans le fonds Einstein de Princeton.
D'accord, et ça veut dire en fait qu'il l'est gardé de son vivant,
ouais.
Qu'il a tout gardé.
Oui, il a tout gardé, ouais. Ce qui est plutôt touchant.
C'est plutôt
touchant,
mignon aussi.
Ouais, c'est plutôt sympa. Et puis alors, t'as ces enfants qui se posent pour le coup des vraies questions scientifiques. Alors, ils disent pas toujours leur âge, mais c'est quand même des petits. Il y en a qui ont 9, 10 ans. Donc, qu'écrive Einstein pour lui demander, bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est que l'âme? Qu'est-ce que c'est que le firmament? Est-ce que un scientifique peut croire en la science et croire en Dieu? Un gamin de 9 ans qui lui demande ça. Donc bon, là, tu te dis, ouh!
C'est si, il demande ça à ses parents et les parents disent, non, on va écrire à monsieur, voilà. Einstein.
Et moi, j'en ai une qui était géniale et je trouve que c'est très, très bien pensé, à un petit garçon qui lui écrit une lettre pour lui demander si un arbre tombe, mais qu'il n'y a personne autour, est-ce qu'il fait du bruit? Et alors là, j'ai trouvé, alors là, celui-là, il a la palme, parce que c'est très, très bien vu. Et là, pour le coup, j'aurais aimé voir la réponse d'Einstein, mais elle n'y est pas.
Ah, dommage.
Donc c'est une lecture plutôt sympa, on passe un bon moment. Je pense que ça peut être lu par... C'est un petit livre, ça se lit assez vite. Ça peut être lu par des jeunes aussi, en espérant que voilà, ça leur fasse un petit élan, je sais pas, peut-être de... Alors ça se fait plus maintenant d'écrire aux stars ou aux célébrités, alors encore moins aux grands scientifiques.
Je reçois des lettres,
moi. Ça se fait, hein. Ah. Moi, j'ai une amie qui a été petite, elle a écrit une lettre à Jacques Chirac, elle était amoureuse de lui, et il lui a répondu, il a envoyé un autographe.
J'allais vous demander...
Mais à 7 ans.
J'allais vous demander, justement, petite, vous aviez écrit à des gens qui étaient vos héros, héroïnes, et si oui, qui, Héloïse?
Moi, j'avais écrit à Robespierre.
Wow. Ah. Oh ben, on peut plus dire à qui on a écrit après.
Il a jamais répondu, non?
Non, en fait, c'était un site internet qui existait à l'époque, au début d'internet, et en fait, tu pouvais écrire à des personnes que tu admirais qui étaient décédées. Voilà, il m'avait répondu que je faisais beaucoup de fautes.
Il a pas changé, hein.
Il a dit qu'il méritait la guillotine. Hein,
Valérie.
Moi, j'avais écrit à WWF, l'Association de protection des animaux, en disant que j'avais pas d'argent et que mes parents me donneraient pas d'argent pour leur cause, mais que je voulais bien faire quelque chose, et j'ai jamais eu de réponse. Et depuis, j'ai arrêté d'être écolo.
Popo.
Moi, je peux pas dire à qui j'ai écrit. Bah, après, Robespierre et WWF.
Dorothée, allez, Corbier.
Non, depuis toute petite, je suis extrêmement amoureuse de Rock Voisine.
Ludo, ça, et toi,
et toujours aujourd'hui.
Il a répondu.
Non, il ne m'a pas répondu.
J'ai jamais répondu.
Jamais.
Là, t'aurais écrit à Chirac, ça passait. Ouais.
Eh ben, on va enlever toutes les chansons de Rock Voisine sur la playlist. Non, on en a
et
pas.
Et toi, Ludo?
Je n'ai jamais écrit, ouais.
À personne?
Ouais, ça doit être quelque chose de féminin.
C'est quoi, c'est de la suffisance, ça, en fait?
Non, non, mais je ne sais pas, non. L'égocentrisme.
Je te donnerai mon adresse. Ah, mais si, tu m'as écrit en plus.
Oui, mais j'étais pas petit. Pendant mes vacances, j'écris. Mais c'est tout. Ok, merci Pauline. Rappelle-nous, quelle maison d'édition?
Chez Payot.
Chez Payot.
Et c'est Cher Professeur Einstein. On va s'arrêter là.
Voilà. Valérie.
Oui, alors, bon, comme d'habitude, hein, j'interviens sur la fin de l'émission. Donc, on va oublier Jérôme Ferrari, on va oublier Einstein et on va oublier... Trinh Xuan Tuan, puisque le vrai, le seul, l'unique, la seule personne fiable sur Terre qui sache faire de la physique, bien sûr, Héloïse, tu sais qui c'est le professeur
Bogdanov.
Moustache.
Moustache.
Professeur,
c'est génial, le professeur Moustache.
Voilà. Alors, les plus assidus de l'émission, si tu m'écoutes, va s'offusquer et va me dire quoi encore, tu reparles de professeur Moustache, tu en as parlé à la 6e émission. Rappelle-toi, en 2014, je dirais oui, et il me dirait, tu ne mérites que de te prendre 2 atomes d'hydrogène et un d'oxygène à 6 électrons périphériques avec 2 liaisons covalentes respectant la règle de l'octet. Enfin bref, tu risques de te prendre une boule de neige dans ta tête, de reparler encore une fois du même livre. Oui, mais le professeur Moustache ne méritait-il pas qu'on reparle de lui encore une fois?
Si, moi je dis oui.
En tant que plus éminent scientifique de tout ce monde.
Mais vous allez me demander qui est le professeur Moustache.
Qui est le professeur Moustache?
Moi, il m'a appris hier pourquoi les adolescents sont mous.
Ben voilà. Fabuleux. Donc, Pauline sait qui est le professeur Moustache. Le professeur Moustache, en fait, c'est un personnage qui a été inventé par Marion Montaigne, qui est une auteure qui a travaillé donc pour les Sèvres, qui a fait entre autres l'école des Gobelins. Et qui, en 2008, a créé un blog, une petite bande dessinée sur son blog, un blog de vulgarisation scientifique, sur lequel elle mettait en BD le professeur Moustache et qui recevait une carte postale, un peu comme Einstein, finalement. En fait, les gens, sur cette carte postale, posaient une question à professeur Moustache et professeur Moustache expliquait, moyennant moult détails et moult situations cocasses, l'explication à leurs questions. Donc en 2008, elle crée ce blog. En 2011, elle le met donc c'est son blog est mis en, sur papier en BD et donc sous le titre de tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Et là donc pour les fêtes de fin d'année, comme par hasard, sort le quatrième tome de Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Donc c'est des recueils de BD. Chaque fois, il y a un thème un peu plus précis. Donc, sur le premier, c'était beaucoup par rapport à la physique, à la science, mais aussi un peu au cinéma, à la psychologie. Et cette mini-série, donc, qui est commencée par un blog, qui a continué à être une bande dessinée, aujourd'hui, donc Arte, avant chaque début de soirée, passe un épisode de... Enfin, ils l'ont mis en, comment dire, un dessin animé.
Un petit mini-série.
Voilà, tu peux voir le professeur Moustache avec ses acolytes expliquer et répondre aux questions de toutes les personnes.
Comme quoi, depuis que tu en avais parlé en 2014, eh ben, ça a fait un gros boom.
C'est ça, voilà. Donc Arte, qui écoute notre émission, s'est dit, mince, s'il parle du professeur Moustache, il faut quand même qu'on en fasse quelque chose. Donc Arte, si tu m'écoutes, je te remercie. Voilà, donc non, c'est un, alors, c'est, là, il y a le quatrième tome qui est sorti, je ne l'ai pas lu. Puisque je crois que c'est toi qui l'as lu, Héloïse.
On avait non, je te l'avais proposé, mais tu m'as dit je vais les prendre à la bibliothèque.
Ouais, voilà. Donc, du coup, j'ai relu le 1, j'ai beaucoup ri.
C'est pour quel âge?
Adulte.
Ah, c'est adulte, pour
parce que c'est. Déjà, je pense que l'enfant, ado. Enfant, il va être choqué. Parce qu'il y a des propos qui sont assez directs, assez virulents. L'ado, il lui manque certainement le... Mais ça, il doit y avoir une explication scientifique. Je vais écrire au professeur Moustache.
Regardez pourquoi les ados sont mous.
Sont mous et pourquoi n'ont-ils pas encore cette notion d'appréciation du second degré.
Voilà. Tu peux nous le dire, Popo, du coup, toi qui as lu aussi professeur Moustache.
C'est un problème de cervelas. Le cervelas qui contrôle les membres et la mobilité n'évolue pas à la même vitesse que les membres eux-mêmes évoluent. Donc ça fait un truc complètement rien ne fonctionne ensemble et ça nous fait voilà des ados où les pieds traînent, les pieds donc beaucoup plus grands chez c'est ce qui est très drôle chez les garçons hein, quand les pieds beaucoup plus grands que le reste du corps. Voilà.
Et donc c'est pas leur faute les pauvres.
Mais non, c'est pas leur faute, mais alors faut pas leur dire parce que sinon là on s'en sort plus là.
Excellent, ouais. Professeur Moustache.
Et chaque fois, c'est pris. Alors, c'est amené avec un tas d'humour. Des fois, c'est juste pas drôle, mais c'est bizarre, hein, c'est étrange. Mais chaque fois, c'est documenté. C'est vraiment, c'est quand même parti. Elle est ultra documentée, cette fille. C'est-à-dire que ça part vraiment d'un vrai fait scientifique ou sociologique qu'elle va tourner un peu en dérision. Et ce professeur Moustache, mais il est tuant. Il est fabuleux.
Excellent.
Voilà. Non, vraiment. Donc, il y a 4 tomes. Le 4e vient de sortir. Je crois qu'un des plus beaux cadeaux de Noël que vous pouvez faire, c'est d'offrir les 4 tomes au pied du sapin.
Excellent. Merci, Valérie. Je vais finir cette émission en présentant Carnet de Science, la revue du CNRS numéro 3. Alors, c'est dur de passer après, professeur Moustache.
Ça a changé. C'est une blague.
Non.
Après, précisons que tu me l'as acheté parce que c'était tellement génial et que tu l'as aimé. Et aussi, c'est ça.
Non, mais c'est génial. Non, il faut imaginer. Imaginez un magazine de science d'une trentaine de pages. Non, un magazine que vous achetez chez votre marchand de journaux, qui coûte à peu près 8 euros, c'est à peu près le prix de ce genre de magazine.
Et
bien
gros.
Ici, vous avez un livre, et non un magazine, c'est un livre de 195 pages pour 12,50 €. Et qui dit livre, dit beau papier, belles illustrations, très belles photographies. Le CNRS propose donc ces livres qui sortent, je sais pas Héloïse, tous les combien, tu sais, tous les trimestres, j'imagine.
Je crois qu'il y en a, oui, c'est trimestriel.
Alors, avec de nombreux articles très variés, par exemple, ici, nous avons l'univers vu du ciel, des particules pour ausculter les volcans, le tour du monde des mythologies, combien y a-t-il de sexes, l'énigme de la matière molle, un gros dossier qui concerne les carniers, dans ce carnet, l'intelligence artificielle. Alors, on parle aussi de micro-algues, de chimie, de ruines, de l'orpénie au Burkina Faso. Bref, c'est des articles qui sont super intéressants, super abordables. Voilà, si vous vous dites, tiens, je vais acheter un magazine pour lire de temps en temps des articles intéressants, ben courez, achetez Carnet de Sciences, la revue du CNRS. C'est super intéressant, c'est très beau, on peut le garder, c'est un bel objet. Et c'est pas compliqué, c'est varié, tous les termes compliqués sont bien expliqués. C'est vraiment une bonne idée qu'a eu le CNRS là-dessus.
C'est le même principe que les 21 ou les...
Oui, c'est ça, oui. C'est un MOOC, en fait. Ils ont sorti...
Ça marche plus, les MOOC. Hein.
Ils ont sorti leur MOOC, effectivement, et ça peut être intéressant. Bah, s'il y en avait beaucoup, effectivement, de reportages, de voyages, mais pas de science. Alors, pourquoi pas?
Mais t'avais France Culture qui l'avait fait, où ils mettaient quand même les articles de...
Et après, France Culture, c'était plus global, en fait, c'était plus divers, ouais. Mais là, c'est que science, ouais.
Donc, c'est accessible, par exemple, à moi, qui ai un niveau de science, niveau professeur moustache moins.
C'est accessible pour moi, donc ça l'est pour toi aussi. Oui, forcément. Oui. Non, c'est accessible. En plus, s'il y a des articles qui ne t'intéressent pas, tu peux zapper. Il y a 200 pages, donc il y a une multitude de choses intéressantes. Non, c'est vraiment une chouette idée. Allez, on va finir cette émission en se faisant un peu de pub. On arrive à Noël. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas encore acheté vos cadeaux, la librairie La Lorgnette est ouverte tout ce week-end, samedi et dimanche.
Oui, jusqu'à Noël, là, je suis ouverte tout le temps. Mais t'as pas posé la question traditionnelle, quel livre avez-vous préféré cette année?
Oh la vache, t'aurais pu nous envoyer un mail hier soir que t'allais poser cette question.
C'est vrai, mais d'abord, on va se faire un peu de pub parce que Popo est en séance de dédicace tout demain. sur la place Chaptal quand même, hein, c'est ça?
Oui, venez me voir sur la place Chaptal près de la patinoire, je serai là.
Voilà.
Avec des barbes à papa quand même, il faut le dire.
Et une tonnelle ou pas? Parce que s'il pleut, on aimerait...
On verra. Mystère.
J'ai mis mes meilleurs indices sur le coup.
Super.
Voilà. Tiens Valérie, vu que tu parles, quel livre as-tu préféré cette année? Je sais même plus quel j'ai lu.
Un livre qui t'a marqué peut-être, ou je sais pas.
C'est très dur.
Pas obligé que ce soit un livre de l'émission.
Hein. Non, alors le problème qu'il y a, c'est que je ne me rappelle plus de l'auteur et vous allez dire c'est vraiment bidon.
Moi, je ne sais pas si c'est début d'année, donc ancienne émission ou.
Non, moi, c'est pas l'émission, mais là, cet été, quand j'étais en Bretagne, j'ai relu un Moby Dick en BD qui était fabuleux. Alors, il y avait très peu de paroles.
En noir et blanc, dessin, non?
Il était en couleur, mais c'est que des dégradés de tons bleu, gris, blanc. D'accord. Mais c'était beau, mais je me souviens plus de...
Lisez Moby Dick lisez aussi Le Retour de Moby Dick.
D'ailleurs, il n'y a pas Moby Dick dessiné chez toi en grand?
Si, j'ai une baleine, une baleine dans ma vitrine.
Dans la vitrine d'Héloïse, il y a Moby Dick.
Mmh. Un pingouin aussi.
Il y a le capitaine Achab à l'intérieur qui nous rend des livres.
Mmh. Et un flipper.
Il n'est pas parti encore, le flipper. J'y ai retourné ce week-end. Tu l'as demain, le flipper, encore?
Oui, je pense, ouais.
Ouais, je viendrai jouer alors.
Je n'ai pas joué.
Popo,
Je vais voir Proche. J'ai beaucoup aimé le
livre des druides sur la Bretagne. On
sait. Le cinquième
règne. Il m'a marqué beaucoup. Non, j'ai beaucoup aimé Rue de la Sardine que tu m'avais
très bon choix.
Mis dans un tirage au sort. Et voilà, j'ai beaucoup aimé aussi Le Grand Méchant Renard là, la BD. Ça, c'était vraiment excellent. Bon, mais après, vous en avez tous réentendu parler. Mais c'est normal, ça se comprend parce que c'était une chouette BD. C'était vraiment sympa.
Héloïse? Ah oui, parce que tu lances le thème.
Non, moi, je pense que je vais dire la chambre à récits, l'histoire du fromage en Espagne.
Je ne l'ai pas terminé. J'ose pas lire la fin. Il me reste les 20 dernières pages, c'est trop.
Il meurt à la fin.
Non, c'est pas possible.
Si, il s'est tout fait avec du fromage.
Ambrosio. Non, mais ce livre, je suis d'accord avec Héloïse, je l'avais oublié, mais il est fabuleux.
Il est magique, ouais. C'est magique.
Vraiment, ça donne envie d'aller à Guzman.
Et toi, Ludo?
Je ne sais pas.
Bon, très bien.
Je ne sais plus ce que j'ai lu.
Non, mais comme ça, au lieu de dire ramener du foie gras, des huîtres et du champagne, tu aurais pu dire préparer votre livre préféré de l'année.
Exactement, mais je vais vous reposer la question en janvier, tiens, pour la première émission. L'année vient de se terminer. Quel est le livre vous avez préféré l'année 2017. On souhaite de bonnes fêtes à nos auditeurs et auditrices.
Bonnes fêtes, auditeurs, auditrices.
Joyeux Noël, tout le monde.
Et à l'année prochaine.
À l'année prochaine, mettez beaucoup de chansons festives pour le 31.
Et des livres sous le sapin.
Et des livres sous le sapin, c'est important.
La Compagnie Créole dans vos MP3.
C'est ça, exactement, j'y pensais. Merci les filles, à 2018.
Bisous,
bye bye.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres me transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.